identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaï Binam.
Baba Zengante.
Bonjour aux auditeurs de Radio Sputnik Afrique. Aujourd'hui, Identité africaine a le plus grand plaisir de recevoir sur notre plateau, qui se déplace aujourd'hui à Barcelone, en Espagne, Monsieur Pierre de Gaulle. Bonjour Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bonjour. Très bien.
Voilà. Donc nous sommes à Barcelone et je vous présente un peu à nos auditeurs. Vous êtes économiste et financier, mais vous avez une vocation qui est celle de... restaurer, et on va en parler tout à l'heure parce que vous avez créé une fondation pour la paix, celle de restaurer la vraie histoire et la diplomatie qui est en grande perte de vitesse aujourd'hui en France, voire en Europe. Donc, c'est ma façon de vous présenter. Après, on va décrypter la personnalité que vous êtes, et puis le but de votre fondation, bien sûr. Voilà. Et j'ai envie de commencer par l'essentiel, parce que même si nous sommes aujourd'hui à Barcelone, nous sommes en Europe, je voudrais que vous nous parliez, s'il vous plaît, de la France, telle que vous la ressentez aujourd'hui. La France qui est votre pays, n'est-ce pas ? Voilà, entre la France d'en bas, si on peut appeler comme ça, et la France d'en haut, l'écart s'est-il creusé davantage ? Dans quel état est le pays aujourd'hui ? Donnez-nous votre appréciation, s'il vous plaît.
Écoutez, pour moi, il n'y a pas de France d'en haut ni de France d'en bas. Il y a la France de tous les Français. Il y a la France de tous les Français qui aiment leur pays, qui sont concernés par leur futur, par le futur de leur famille, par leurs entreprises, par leur commerce et par leur devenir dans la France et au sein de l'Europe. Je pense qu'il y a peut-être une dichotomie qui est celle que vous évoquez au niveau de la prise de conscience. Il me semble que la France, de tous les jours... La France qui travaille, la France qui est confrontée aux difficultés, à la nécessité de faire avancer leur entreprise, leur commerce, de faire vivre leur famille. Il me semble que cette France-là est plus consciente des réalités, des difficultés que cette élite intellectuelle qui me semble totalement déconnectée, de la situation, qui n'ont pas véritablement... l'attention, ni même le souci des Français. Il me semble que cette élite intellectuelle qui est très conditionnée, qui est finalement arrogante, puisque qu'est-ce que c'est que l'arrogance ? L'arrogance, c'est l'aveuglement. L'arrogance, c'est ne pas connaître les autres, ne pas connaître la culture, ne pas faire de porter attention même aux gens qui sont en face de vous. Eh bien, cette France dite intellectuelle est, à mon avis, déconnectée des réalités. Et ça se transmet totalement dans les décisions politiques et même dans le dialogue que cette élite politique a vis-à-vis du peuple français. Et c'est cette déconnexion qu'il faut combattre en, martelant les vérités, des vérités simples, parce que je pense qu'en France, on a perdu le bon sens. On a perdu le langage de la vérité. Ou plus exactement, c'est cette élite, cette technocratie qui a perdu ce contact et qui, parce qu'elle ment aux Français, parce qu'il y a eu ce langage, politique, d'ego, d'agenda personnel, et qu'elle s'est totalement discréditée vis-à-vis des Français et qu'elle s'est déconnectée. Mais les Français ne sont pas dupes. Vous savez, les Français ont une particularité remarquable, c'est de se remettre en question. Ils sont parfois un peu râleurs, mais ils ont un regard cartésien et objectif et sans équivoque sur leur vie, sur les événements. Les Français ne sont pas dupes. Et d'accord. Je crois que notre travail et le vôtre, c'est justement de rétablir cette connexion par l'information véritable. Et Dieu sait si l'information en France, malheureusement, est biaisée, orientée et évidemment censurée. En tant que chaîne russe, mais internationale, vous en avez aussi malheureusement subi les conséquences.
Vous portez un nom très célèbre, De Gaulle. Votre nom, ça rappelle évidemment votre grand-père, Charles de Gaulle. Et vous vous êtes fait un prénom, Pierre. Vous êtes Pierre de Gaulle. Et j'ai écouté quelques interviews et puis j'ai lu, je me suis entretenu avec pas mal de gens. À chaque fois, j'ai eu l'impression que les gens qui vous ont écouté, et d'ailleurs, il y en a beaucoup, énormément, qui vous suivent et qui souhaitent ardemment à ce que vous vous présentiez en tant que président aux prochaines présidentielles. Est-ce que pour cela, il faut que vous fondiez un parti ? Est-ce que vous êtes prêt ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui suit, qui découle de cela, si vous n'êtes pas encore prêt pour cette réponse ou quoi que ce soit, voyez-vous quelqu'un en France qui pourrait le faire ? Et que faut-il faire ? Alors, première question, est-ce que vous serez prêt à un moment donné d'annoncer votre candidature ?
Si les Français m'appellent, je serai prêt à y répondre. Je serai prêt à répondre à mon destin en tant que celui des Français et celui de mon pays. Quels que soient les événements, les circonstances, je défendrai évidemment toujours mon pays. Je défendrai aussi toujours ses alliances dans l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt de la France et des Français. En ce qui concerne votre réponse sur un candidat possible, je dirais en dehors de moi, qui pourrait prendre les rênes et avoir cette perspective, il y a beaucoup d'aspirations de nombreux personnages connus et d'autres moins connus qui se réclament de la pensée de mon grand-père. Je ne vois pas actuellement qui représente véritablement la pensée et l'héritage politique de mon grand-père. Il y a malheureusement cette tendance parmi ces élites politiques, j'en parlais, à changer d'avis parce qu'ils ont trop l'habitude, si vous voulez, de naviguer en fonction des événements, en fonction des sondages, et à s'adapter, je dirais, à l'actualité internationale, à la conjoncture et à la décision qui sont prises par d'autres. Il y a aussi cette tendance à donner à d'autres la responsabilité de ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne peut pas faire. C'est un esprit d'abandon qui est malheureusement, qui se généralise au sein de la classe politique française et de ses élites. Un de vos scientifiques me demandait, me disait tout ça c'est très bien, mais pour changer véritablement l'état d'esprit, il faudra 25 ans pour changer toute une élite, pour changer toute une administration et ceux qui la représentent, et que pour véritablement l'état d'esprit change de façon positive, dans le bon sens, pour provoquer véritablement un sursaut et un tournant. Je pense que c'est par le peuple français, et uniquement par lui, qu'on pourra changer le destin de la France. Il faut redonner, à mon avis, aux Français la responsabilité politique, la maturité politique dont on l'a privé, en l'infantilisant, en ne lui disant pas la vérité, en le manipulant, parce que c'est la véritable manipulation. Et les médias ont joué, pas vous bien sûr, mais vous avez suivi ça, j'en parlais tout à l'heure, mais les médias français sont soumis à des règles, doivent suivre, je dirais, les prescriptions qu'on leur impose. Vous savez que le président Trump a supprimé l'USAID et que ça a révélé de très importantes subventions dans les médias européennes, y compris directement auprès de certains responsables politiques. On a révélé récemment que Madame Zourabichvili avait reçu 40 millions de dollars pour influencer les élections en Géorgie d'octobre de l'année dernière. La BBC a perdu 50 millions de livres. Vous avez un certain nombre de médias français, que je ne citerai pas, qui reçoivent plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions par année pour dire ce qu'on leur dit de dire. Vous voyez aujourd'hui que les choses changent, notamment aux États-Unis, et que donc on commence à préparer l'opinion publique en faisant passer certains messages sur la paix, sur la Russie qui revient maintenant au premier plan, sur Poutine qui est finalement pas si méchant que ça. Et donc on est en train de préparer petit à petit l'opinion publique, comme on l'a fait au moment des crises, du Covid, des gilets jaunes. On s'oriente pour pouvoir, je dirais, justifier les décisions qu'on prend maintenant, et évidemment qu'on n'a pas su prévoir ni anticiper, parce qu'on n'a pas de perspective et qu'on n'a pas d'idée.
Eh bien, si un jour vous êtes élu président de la République, est-ce que vous dites qu'il faudrait donner un peu plus de voix à la population, aux Français eux-mêmes, je sais que c'est une réponse par oui ou par non, est-ce que le référendum fait partie pourrait faire partie de vos plans. Le référendum étant tout de même la voix du peuple en général, sur des questions importantes, hein, que ce soit même l'immigration, que ce soit, je dirais même, parlons de choses très importantes, vous parlez des médias. Donc, si les médias sont manipulés, est-ce qu'on pourrait instaurer une question par oui ou par non, quelles sont les subventions attribuées? Est-ce que le référendum, pour vous, est une façon d'écouter sa population, son peuple?
D'abord, je pense qu'il faudrait redonner à la France un équilibre politique. Un équilibre politique par un équilibre des pouvoirs. Mon grand-père avait souhaité mettre en place, au sein de la Constitution de la Ve République, un septennat, c'est-à-dire les pouvoirs du président de la République à 7 ans, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, la première Assemblée, à 5 ans, et le pouvoir du Sénat, la Chambre haute de consultation, à 9 ans. Tout ça permettait d'avoir un équilibre des pouvoirs et une certaine, je dirais, rotation, au moins des opinions, et des partis du pouvoir qui expriment justement le, enfin, je dirais, le pouvoir décisionnel et politique. Donc c'était relativement équilibré. Les politiques, depuis le général de Gaulle, n'ont cessé que de transformer cet équilibre et de le réduire, puisque tout est aligné maintenant sur l'élection présidentielle à 5 ans, y compris le calendrier en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Donc il n'y a plus aucun équilibre. Et avec la politique d'information et de communication, je vous le disais, on a infantilisé les Français, c'est-à-dire qu'on les a privés de la capacité de comprendre, de choisir librement, tout simplement, parce qu'on ne leur a pas expliqué ni les enjeux, ni la vérité, ni donné, de perspectives de croissance, de perspectives internationales, de perspectives internes, y compris vis-à-vis de leur propre politique au sein de leur propre pays. On n'a pas donné non plus aux élus le sens de la responsabilité. Dans votre pays, notamment, les gouverneurs de région ont à rendre des comptes devant le président. Votre président reçoit périodiquement, et présentation à l'appui, tous ces chefs de région qui doivent donner des résultats par rapport aux objectifs qui leur ont été donnés. Et si ça ne convient pas, eh bien, on les change. Les préfets en France devraient avoir ce rôle-là. Et on doit donner à chaque niveau de représentation politique, aussi bien nationale que régionale, municipale ou locale, une responsabilité en termes d'emploi, en termes de grands projets, en termes sociaux et aussi en termes de sécurité. Et les politiques devraient déjà en rendre compte. En ce qui concerne le référendum, effectivement, mon grand-père a utilisé le référendum, mais pour les grandes questions. La France n'est pas la Suisse. On ne va pas faire des votations populaires au niveau municipal pour savoir si on stationne à droite ou à gauche. Le référendum doit être utilisé à bon escient et pour les grandes questions. La Constitution de la Ve République en France prévoira la capacité donc pour les Français de voter à travers un référendum. C'est l'article 89 ou l'article 11 de la Constitution. Et les Français doivent être consultés, devront être consultés pour les grandes questions. Et je pense d'ailleurs que l'envoi de troupes françaises en Ukraine, et je suis absolument contre ça, la politique militaire d'aide à l'Ukraine, je suis absolument contre ça, elle aurait dû être votée en référendum. On ne l'a pas fait. Il faut restaurer.
Vous êtes pour le référendum.
Je suis partisan, bien sûr, mais pour les grandes questions. Pour les questions importantes qui touchent à la politique internationale, qui touchent aux réalités économiques essentielles et politiques du pays.
Oui, parce que ce sont des milliards dépensés contribuables,
oui,
sans les avoir consultés, une commission européenne qui n'a pas été élue. Enfin, le peuple n'a jamais élu ceux qui prennent des décisions aujourd'hui. Donc,
je pense que vous me posez la question sur l'état de la France. Mais je pense que les Français et vos auditeurs doivent bien se rendre compte que le droit français n'existe plus. Le droit français a été complètement substitué. Le droit européen s'est complètement substitué au droit français. Le seul droit qui reste aux Français, c'est la Constitution. C'est le droit constitutionnel. Mais la France doit, comme les autres pays européens, appliquer des directives qui sont produites, pour ne pas employer un autre mot, par une élite, européenne qui est non élue, et qui impose aux États membres des subventions, enfin des directives qui doivent être votées dans le droit des États membres, enfin les droits entre guillemets, sous peine de sanctions, de pénalités économiques importantes et surtout de pression politique considérable. Il n'y a plus de droit français. Je rappelle à vos auditeurs que en 2005, il y a eu un référendum qui a eu lieu en France pour approuver ou non la Constitution européenne. Ce référendum a rejeté l'idée d'une Constitution européenne à 55%. Peu de temps après, on a imposé le traité de Lisbonne, contre l'avis des Français. Et je pense que à la fois les Français sont privés de cette capacité à comprendre et à s'exprimer, mais je dirais on ignore leurs revendications, on ignore leur volonté, on ignore leurs plaintes, on ignore leurs cris. Et c'est créé à cause de ça une dichotomie considérable, aussi parce que les Français sont absolument pas dupes. Les Français d'ailleurs ne croient plus en leurs médias. Je crois que les sondages récents disaient que seulement 25% des Français, et c'est d'ailleurs 22% aux États-Unis, font confiance aux principaux médias dans leur capacité à expliquer et à dire la vérité. Pour les hommes politiques, il y a un discrédit complet, et je pense qu'il faut complètement refonder, reconstruire cette confiance par le dialogue, par cette interaction et par une nécessaire prise de responsabilité des politiques. Les politiciens, maintenant, doivent rendre des comptes sur leur action et pas uniquement à chaque élection.
Je rappelle à nos auditeurs de Radio Sputnik Afrique, Identité africaine reçoit aujourd'hui Pierre de Gaulle. Vous avez tout à l'heure évoqué la tentative, la proposition, enfin à un moment donné, le 20 ans de guerre, le président Macron avait proposé, même plus que ça, puisqu'on savait de toute façon qu'il y avait déjà des militaires présents sur le front en Ukraine, d'envoyer l'armée française. Aujourd'hui, on a vu que l'Europe a été écartée des parler sur la paix entre donc qui se passe entre la Russie et les États-Unis, entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Malgré les efforts qui sont faits aujourd'hui, donc la visite récente d'Emmanuel Macron à Washington, puis maintenant le Premier ministre britannique, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui prépare vous croyez en une armée européenne? Vous savez qu'il y a tout de même aujourd'hui encore des bases militaires américaines présentes en Allemagne, en Europe. Il y a à peu près 100 000 hommes qui sont présents, des soldats, des militaires américains en Europe, donc qui vont partir, apparemment, si on comprend bien, la plupart. Donc, vous croyez en une armée européenne et à quoi sert-elle? Contre qui va-t-elle se défendre?
Je ne crois pas du tout en l'armée européenne. Mon grand-père n'y croyait pas non plus. Vous ne pouvez pas imaginer que des Allemands, des Anglais ou des Suédois se battent pour la France comme elles se battraient pour leur propre pays. Ça ne fonctionne pas. C'est une idée technocrate européenne qui vise en fait à dissoudre l'esprit de la nation, l'esprit du peuple, sa capacité à se défendre dans une sorte de union. Je dirais plus ou moins clair, où chacun se fond dans un espace européen, et donc l'exercice étant de dissoudre, je dirais, chaque pays dans une sorte de vaste marché, qui est finalement soumis à des règles anglo-saxonnes. Il n'y a plus de capacité nationale, il n'y a plus de défense nationale, et les intérêts de chaque pays ne sont pas respectés. Tout ça n'est pas du tout exclusif, je dirais, d'accord, évidemment, de défense qui lie un pays ou un autre. L'envoi de troupes européennes en Ukraine est une bêtise considérable, puisqu'il s'agit de troupes européennes, des troupes de l'OTAN, qui, si elles se battent sur leur propre drapeau avec leur propre uniforme, seraient en fait considérées comme une agression ou une possibilité d'agression directe de ces pays européens contre la Russie. Je rappelle quand même que la France et l'Allemagne étaient toutes les deux garantes des accords de Minsk, censés protéger les populations du Donbass
contre les attaques d'un régime institué par l'administration américaine à l'époque, qui visait justement à réduire ces populations pro-russes dans le Donbass, et ça a causé, je dirais, 18 000 morts. 18 000 morts. Et les Français et les Allemands étaient garants de ces accords. Les présidents de l'époque, président Hollande, et notamment Angela Merkel, ont tous les deux dit, la chancelière Angela Merkel, ils ont avoué devant les médias, l'une dans le magazine Die Zeit et François Hollande ensuite devant les journalistes, que tous ces accords étaient en fait un jeu de dupes, mais étaient uniquement destinés à laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. L'Ukraine a été utilisée aux dépens, évidemment, des Ukrainiens qui ont payé de leur sang ces erreurs. On parle près d'un million de morts, de tués et blessés en Ukraine, uniquement comme instrument pour provoquer une guerre contre la Russie. Je crois que maintenant, les médias s'ouvrent, et même les médias occidentaux expliquent les raisons de cette guerre, de ce conflit qui a été provoqué. Je salue l'attitude du président Trump aujourd'hui de vouloir faire la paix, un peu à marche forcée, mais de vouloir faire la paix et de stopper cette tuerie. Il est vrai que dans cet exercice, qui est un exercice politique et médiatique, et je le déplore, la France et la Grande-Bretagne se sont engouffrées dans la surenchère parce qu'elles n'ont pas de programme, elles n'ont pas de perspective. C'est un vide politique qu'il faut combler. Comment comble-t-on le vide politique ? Par l'agressivité et l'arrogance, avec les conséquences que l'on sait. C'est l'Europe la grande perdante des sanctions. Les chiffres le montrent. La Russie a eu une croissance de son produit intérieur brut de 4,3%
malgré les 17
en 2023, malgré les 20 000 sanctions, ouais. Et de 3,4% en 2024. Et avec beaucoup d'hypocrisie, parce que finalement, la France importe 40% de gaz russe, directement et indirectement. L'Europe est la première importatrice de gaz russe. Et le solde même d'achat de gaz russe en France, enfin je dirais en Europe, se monte environ à un peu moins de 30 milliards d'euros. C'est supérieur à l'aide financière que l'Europe a donnée à l'Ukraine, qui est à peu près 19 milliards. Je parle uniquement d'aide financière. Je ne parle pas d'aide militaire et de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est essentielle. Évidemment, il faut donner de l'aide humanitaire pour les populations qui sont les premières à souffrir dans le cadre de ce conflit. Mais où est l'autonomie, finalement, nationale dans tout ça ? À l'époque où François Hollande même a voté l'extraterritorialité des bases de l'OTAN en France, ce sont des territoires qui n'appartiennent plus à la France. C'était le cas aussi en Allemagne. Donc, je pense que s'il y avait une autonomie politique et de décision, vous savez que la guerre est la continuation d'une politique par d'autres moyens. C'est von Clausewitz qui disait ça. Eh bien, on aurait une façon peut-être beaucoup plus objective, juste, réaliste, de pouvoir agir dans ces conflits internationaux, de pouvoir exister en tant qu'arbitre. La France a perdu sa capacité d'être un arbitre dans les règlements des crises internationales. Elle n'a plus sa propre politique. Et je crois que malheureusement, le président Macron...
En tout cas, sur le plan diplomatique, c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. La France a réussi à se fâcher avec tous les pays du monde. Le président Macron est allé, effectivement, aux États-Unis pour rattraper un rôle, je dirais, dans le règlement du conflit actuel. Monsieur Séjourné a dit oui, on a même fait un accord gagnant-gagnant en ce qui concerne les terres rares. Mais vous avez, au-delà de tout ça, deux grands chefs d'État, en l'occurrence votre président, M. Poutine, mais également Donald Trump, qui ont vu la perspective, je dirais, globale et qui ont anticipé ces nouveaux équilibres. C'est-à-dire que le règlement de la crise en Ukraine s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large, s'inscrit dans le rôle futur de la Russie et des États-Unis, notamment dans la zone arctique, s'inscrit dans une perspective d'un monde multipolaire. Vous savez que je suis un ardent défenseur du monde multipolaire et des BRICS, qui n'est pas du tout exclusif, je dirais, de l'Europe, ni des accords de l'ASEAN, mais simplement qui définit un nouvel ordre mondial, puisque les crises récentes ont montré, aussi bien une crise militaire, politique et économique, que les institutions qui ont été créées justement pour régler les crises, comme l'ONU, comme la Cour pénale internationale, ne fonctionnent plus. Donc il faut repenser ce nouvel ordre mondial, et les présidents Trump et Poutine l'ont parfaitement compris. Ils ont annoncé, lors du rétablissement de leurs relations diplomatiques, un véritable programme de travail global qui s'inscrit dans des accords économiques. Et d'ailleurs, les discussions maintenant sont en train de progresser, notamment en ce qui concerne les ressources minières en Ukraine, puisqu'il faut bien payer l'addition. Qu'est-ce qui va payer l'addition de cette guerre? C'est l'Europe. Qu'est-ce qui paye les additions de cette sanction, de des sanctions?
C'est
l'Europe.
C'est l'Ukraine aussi.
C'est et c'est bien évidemment l'Ukraine.
On a l'impression que tout de même, le président Trump, c'est Donald. C'est donnant. Hein. Il y a un petit côté un peu... Enfin bon, en tous les cas, il le présente un peu mafieux, hein, presque.
Je veux dire, je n'appellerai pas ça comme ça. Les Américains sont des hommes d'affaires. Trump est un homme d'affaires. Donc un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui fait une transaction, qui fait un deal. Donc il faut que ce soit profitable. Il faut que ce soit profitable. Et votre président a eu cette lucidité, cette clairvoyance. Vous savez, les Russes voient les choses 50 ans à l'avance. De dire, eh bien, pour négocier cet accord de paix, il est évident qu'on doit le présenter dans une perspective beaucoup plus large. C'est-à-dire... de pouvoir exploiter ce qui est mis sur la table actuellement, c'est évidemment pouvoir, je dirais, reconstruire l'Ukraine, ça on en parlera plus tard, mais surtout de faire en sorte que ces accords puissent, je dirais, asseoir la paix sur une longue durée et asseoir une perspective économique et politique entre la Russie et les États-Unis sur une longue durée. Il est évident que la zone arctique est le principal théâtre politique et économique des 10 années à venir. Et donc, le président Poutine a dit, nous devons travailler sur l'exploitation commune américaine et russe des ressources minières dans la zone arctique et sur l'utilisation des routes de commerce dans cette zone. Nous vous offrons, vous, Américains, la possibilité d'acheter de l'aluminium russe et d'exploiter ensemble les terres rares qui se trouvent en Ukraine. Alors, en l'occurrence, elles sont principalement dans les zones qui ont été conquises ou récupérées, je dirais, par la Russie dans le Donbass. Mais c'est dans un cadre global, c'est pas uniquement un accord politique. Le président Macron court derrière tout ça, avec une politique qui a été extrêmement ambiguë, de dire on ne veut pas la défaite de la Russie, mais on veut la victoire de l'Ukraine, d'aller très en avant, malgré même les recommandations, voire les interdictions de l'administration Biden précédente, d'envoyer des troupes en Ukraine, de vouloir utiliser des missiles à longue portée. Même l'Allemagne, bon, on parle de cette conversation entre un colonel de l'armée allemande qui a été intercepté pour dire qu'il fallait utiliser des missiles Taurus, notamment en Crimée. Mais les Allemands se sont bien gardés de recommander l'envoi de troupes sous leur uniforme en Ukraine, puisque ça aurait été considéré comme un engagement direct de leur propre armée contre la Russie. Et le président Macron, lui, n'a jamais eu... Je ne peux même pas parler de clairvoyance. C'est une politique extrêmement ambiguë où il change en fonction des circonstances. Si vous regardez, si vous observez la communication, même la gestuelle de cette entrevue qui a eu lieu à Washington avec le président Macron et le président Trump, le président Trump est resté silencieux. Lors des questions qui ont été faites devant les journalistes, il n'a pas fait de commentaires. Il est resté extrêmement réservé. Toujours est-il qu'après cette rencontre, la Russie je dirais, les États-Unis se sont accordés au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour voter une résolution qui ne condamnait pas la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a ce changement politique très fort en vue d'un rapprochement, en vue d'une construction et en vue de la paix. Vous savez que je suis engagé pour la paix, que je le défends.
Bon, on parlait tout à l'heure.
Je défends l'amitié entre les peuples. Je suis très heureux de cette perspective et je souhaite que la France, malgré toutes les erreurs qui ont été faites, malgré le manque d'appréciation, ces changements de communication, d'opinion, je souhaite que la France retrouve son vrai rôle. La France est un grand pays. La France bénéficie de l'arme nucléaire. Mais est-ce que la France a encore son indépendance? On veut cette armée européenne. On veut que... Je ne le veux pas. Je ne le souhaite pas et je pense que ça n'est pas bon. Ni pour l'Ukraine, ni pour l'Europe, ni pour la France, ni pour les autres nations. On souhaite que... On a dit on va envoyer des troupes en Ukraine. Mais les Américains, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, vont faire payer l'addition à l'Europe. Quel est le coût de la reconstruction de l'Ukraine? Quel est le coût même de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne? On parle de 180 milliards. Il est évident que ce ne sont pas les États-Unis qui vont le payer. Les États-Unis auraient déjà donné 300 milliards. La communauté européenne, 138. D'ailleurs, on ne sait pas très bien où va l'argent.
On comprend pas.
Et je pense que le président Zelensky sera rattrapé très lourdement sur ces dossiers, comme sur d'autres.
Mais paraît-il qu'il sera accueilli en France. Parce que ce que je voulais vous poser la question, c'est que vous avez dit que nos politiques français, les politiques français ne rendent pas compte de leurs actes très souvent et agissent en technocrates, tout simplement, prennent des décisions. Pareil, la même chose pour la Commission européenne, etc. Tout de même, vous ne pensez pas, faut-il qu'aujourd'hui ils rendent publiquement justement compte, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour avoir menti, ne serait-ce que les accords de Minsk, puisqu'ils savaient que la guerre se préparait, ils se préparaient eux-mêmes à la guerre, et ça fait tout de même des centaines de milliers de d'hommes et de femmes morts ou blessés. Des millions de gens de déplacés, est-ce que c'est un crime pour moi? Mentir de cette manière-là, c'est un crime. Est-ce qu'on peut traduire les Merkel, François Hollande, devant une cour d'appel internationale, quelle qu'elle soit, constituée, ce sont des crimes, ils nous ont menés presque au bord de la guerre atomique, non? Je veux dire, c'est grave ce qui s'est passé là.
Oui, c'est grave, et je pense qu'un homme politique, quel qu'il soit, qui ment à sa parole, avec les conséquences que l'on sait en termes de guerre, en termes de population, en termes de... Je ne veux pas compter, je ne suis pas comptable de la souffrance des gens en centaines de milliers de morts et blessés, mais je pense qu'effectivement, ils devraient rendre compte au nom de leur responsabilité, de leur parole qui a été trahie. Vous savez, on dit qu'Obama est venu en France peu après la conclusion de ces accords et a interdit... à Monsieur Macron et à Madame, à Monsieur Hollande, pardon, et à Madame Merkel, d'appliquer finalement les accords. Il y avait cette volonté de susciter une crise grave en Ukraine, et l'Ukraine a été utilisée comme un instrument pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait cette alliance économique et politique avec la Russie. La grande peur des États-Unis, c'est que l'Europe soit homogène, que l'Europe soit autonome et qu'elle soit alliée politiquement et économiquement à la Russie. Parce que le plus grand marché au monde, libre, moderne, organisé avec toutes les technologies, avec toutes les capacités industrielles, avec toute l'innovation et le poids financier, c'est finalement l'Europe. L'Europe alliée aux matières premières russes, évidemment, c'est l'indépendance. C'est la souveraineté, les matières premières et l'énergie. Il suffit de regarder une carte. Eh bien, ça en ferait un bloc, je dirais, beaucoup trop fort, qui serait un concurrent.
C'est le rêve de votre grand-père encore.
Mais vous savez, mon grand-père disait que la politique, c'est une affaire de réalité. Et je pense que c'est justement cette réelle politique qu'il faut absolument réinstaurer aujourd'hui. Je pense que vos auditeurs et les Français doivent être bien conscients que la communauté européenne, l'Union européenne, n'est pas du tout autonome, n'est pas, je dirais, et parce qu'elle n'est pas autonome, elle n'est pas apte ni à décider, ni à imposer quoi que ce soit vis-à-vis des États membres. On dit qu'il faut une armée européenne, il faut un effort de défense européen. Très bien, mais tous les pays européens sont dans l'OTAN, sont dans le commandement intégré de l'OTAN. Donc si l'OTAN a perdu son rôle, je dirais, de protecteur, de défense, en vue de se protéger contre un éventuel, c'est de la spéculation, agresseur en Russie, puisque votre président, le président Poutine, a dit qu'il n'avait aucunement l'intention d'envahir l'Europe, ni même l'Ukraine, que c'était une aberration. D'ailleurs, c'est absolument pas l'intérêt des Russes. Eh bien, tous ces pays sont dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils sont soumis au commandement américain. Donc, l'idée de faire une armée européenne qui serait indépendante, qui jouerait un rôle indépendant en Ukraine, c'est une supercherie. C'est faux. C'est encore une utilisation et une manipulation des Européens et des pays membres, quels qu'ils soient. C'est une manipulation des Français de faire croire que l'armée européenne, qui est une utopie, est autonome, avec des décisions autonomes pour défendre leurs propres intérêts. C'est faux. C'est un mensonge. D'ailleurs, le président Trump a bien dit, moi je cesse de m'occuper de la défense européenne.
Défendez-vous vous-même.
Défendez-vous, voilà. Oui, mais augmentez...
C'est vous qui êtes les voisins concernés en premier.
Mais augmentez vos dépenses militaires au sein de l'OTAN. De 2% du produit intérieur brut, il faudrait qu'on passe à 5%. Ce qui est un effort considérable. Ça dépasserait très largement, par exemple en France, le budget de l'éducation nationale.
C'est alors, attendez, expliquez-nous, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a effectivement des informations partout, ça change au gré du vent. Quel était l'intérêt de l'Europe de s'engager dans cette guerre aussi massivement, même si vous dites que quand vous n'avez pas, comment dire, l'autorité, quand vous perdez le terrain, comment dire, en tant que président, vous n'êtes pas écouté par votre peuple, eh bien vous engagez plutôt dans une guerre pour faire basculer l'information et l'importance, etc. Mais quel est l'intérêt véritable et que va récolter maintenant, l'Europe qui a dépensé des milliards, c'est-à-dire les contribuables, que les Américains récupèrent les métaux précieux, que les Russes dealent avec les Américains, là encore on comprend, mais alors l'Europe elle est où là, qu'est-ce qui se passe là?
Je pense que l'Europe s'est fait utiliser et manipuler.
Par qui? Par elle-même?
Par manque de perception, de clairvoyance. L'Europe ne défend pas les intérêts de chaque pays. Quand vous voyez Mme von der Leyen
qui dirige, sont des naïfs, des innocents, c'est-à-dire que comment ça, ils ont pas vu la chose venir, on a du mal à comprendre, à croire qu'ils soient aussi naïfs que ça.
C'est l'utilisation de leur propre agenda. Madame von der Leyen disait, l'intérêt des Européens, c'est d'acheter du gaz américain. Imaginez le manque de bon sens et le manque de logique. C'est un mensonge considérable. Il vaut mieux acheter du gaz américain, c'est-à-dire le payer 4 à 7 fois plus cher que même les Américains eux-mêmes, pour la défense de leurs propres intérêts, que de faire alliance avec la Russie qui est diabolisée. Mais vous verrez comme l'opinion publique va changer. Puisque maintenant, c'est la paix, c'est la reconstruction des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Donc on va aller dans l'autre sens. Donc on se met à négocier, donc on se met à vouloir suivre le train et faire des accords qui vont essayer de... On va essayer de faire en sorte qu'on soit remboursé.
Remboursé comment? Par qui? Ils vont avoir aussi un petit bout de métaux précieux.
Ils auront un bout, mais on leur a dit dès le départ, puisque le président Zelensky, enfin il n'est plus président depuis le mois dernier, a dit... Eh bien, a donné mandat à BlackRock en fin décembre 2002 pour la reconstruction de son propre pays. Le président Zelensky a vendu déjà depuis très longtemps son propre pays. 50% des terres agricoles, c'est la surface de l'Italie. Maintenant, les terres rares, il n'y a plus rien. C'est un pays qui, malheureusement, sera partagé entre une partie, je dirais, véritablement ukrainienne, encore que les Polonais voudront aussi récupérer un bout, une partie qui serait une sorte de no man's land politique et économique sans occupation militaire, et une partie russe, d'ailleurs composée de populations qui sont entièrement russophiles. Donc, il n'y a plus d'Ukraine.
Non, mais l'Europe, qu'est-ce qu'elle gagne là-dedans?
L'Europe est perdante. L'Europe est perdante. Elle a voté 20 000 sanctions. Les Américains ont dit tout de suite, M. Rubio a dit qu'il fallait envisager une levée des sanctions vis-à-vis de la Russie. Et l'Europe, Mme von der Leyen en tête, M. Macron aussi, M. Starmer disent, il faut maintenir ces sanctions. Et en plus, il faut imposer une présence militaire en Ukraine. Eh bien, l'Europe va continuer à se tirer une balle dans le pied, à se punir, à souffrir totalement inutilement, puisque les Américains vont lever les sanctions. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe vient d'ailleurs de voter un 16e train de mesures contre la Russie. Donc, il n'y aura plus de transactions en euros, mais les transactions se feront en dollars, sur le dos des Européens. Quelle va être la conséquence pour les Français et pour les habitants de l'Allemagne, de l'Italie? La Grande-Bretagne, c'est encore un autre problème. Mais qu'elles vont simplement payer l'énergie, les matières premières beaucoup plus chères, qu'ils vont être obligés de l'obtenir sur les marchés internationaux, qui auront déjà été négociés par les Américains, qui auront, eux, directement traité avec la Russie. Sachant que la Russie, évidemment, s'est réorientée, diversifiée à l'Est, s'est modernisée. Vous savez, il y a une sorte les Européens, les Français aussi, les politiques ont des œillères devant les yeux. Ils voient la Russie comme étant celle des années 90. Ils voient l'Arabie Saoudite comme étant celle des années 90. Alors que ils voient les Africains comme étant encore ceux qui sont, entraînés, développés, gérés par les anciennes colonies, pour employer un mot très fort. C'est plus du tout le cas. Tous ces pays ont une maturité politique, ont des capacités d'innovation, ont des universités, ont une formation considérable. Nous revenons, ma femme et moi, récemment, d'un voyage en Arabie Saoudite. Nous avons été particulièrement frappés, notamment par la qualité de la médecine. Il faut dire que les moyens, en ce qui concerne la recherche et le développement, sont extrêmement développés là-bas. Mais vous avez un très haut niveau, maintenant, vis-à-vis de la médecine. Et il y a cette espèce d'arrogance, j'en parle tout le temps, cette méconnaissance, cette refus de voir comment les populations ont évolué, de refus de voir qui ils sont, de les comprendre, quelles sont leurs différences culturelles, quelles sont leurs originalités, quelle est leur diversité. Et donc, on se trompe totalement, on se trompe complètement. L'Europe ne voit pas qu'elle va être la première punie dans ces sanctions. Les transactions vont se faire librement, maintenant en dollars, avec la Russie. D'ailleurs, le premier pays à avoir adopté ça, c'est la Corée du Sud. À partir du moment où les États-Unis ont dit « on envisage la levée des sanctions », eux ont automatiquement abandonné les sanctions contre la Russie, en suivant la politique américaine. Et comme toujours, par démagogie, par manque de vision, par bêtise et par agenda personnel, l'Europe s'engouffre, marche à reculons, contrairement à ses intérêts et aux intérêts de leur population.
Depuis les années 2000, la politique et la diplomatie russe a essentiellement été orientée vers la coopération économique multilatérale et avec le souci du respect des spécificités, des traditions et d'histoire des pays avec lesquels la Russie travaille. Comment voyez-vous la présence de la Russie sur le continent africain?
La Russie a fait un travail diplomatique et d'accompagnement considérable vis-à-vis de l'Afrique. On dira « Ah, la France a été chassée de l'Afrique, c'est la faute des Russes ». Alors c'est la faute des Russes, c'est la faute aussi des Américains, c'est la faute aussi des Chinois qui y sont, tout simplement parce qu'on n'a pas su comprendre et qu'on n'a pas su accompagner l'évolution de ces pays et qu'on n'a pas reconnu leur degré de maturité. Il y a eu des alliances et des rapprochements sur les 12 ex entre guillemets, colonies, je n'aime pas ce terme parce que pour moi il est réducteur, africaines, 11 ont voté pour des relations bilatérales avec la France. On a trop, par le passé, cédé, à la facilité, aux intérêts économiques, en donnant à une certaine catégorie de politiciens africains beaucoup trop de largesse, beaucoup trop d'autonomie, beaucoup trop de privilèges. Il y a eu ces excès que vous connaissez, ce qui fait que la population africaine a été totalement privée du bénéfice d'accords économiques, de partage de richesses, de sécurité sociale et d'avancées, je dirais, équilibrées dans la construction de leur propre société. On n'a pas su aussi reconnaître aux Africains un certain degré de maturité, une connaissance. J'ai rencontré des universitaires africains, j'ai rencontré les gérants de l'Union africaine, et je peux vous assurer que ce sont des gens extrêmement intelligents, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup voyagé, qui sont très instruits, et il faut redéfinir maintenant un nouveau partenariat avec les pays africains, avec leurs dirigeants, avec leurs élites, et faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier d'accords économiques et politiques. C'est-à-dire que tout le monde soit reconnu et rétribué. C'est un véritable intéressement à tous les niveaux qu'il faut reconstruire. La Russie reconnaît est bien consciente du poids de la France, de l'antériorité, du partage et même des échanges au niveau des familles, des constructions des familles entre les Africains et les Français, et pour ces relations tripartites. Ma foi, pourquoi ne pas s'asseoir, travailler ensemble en vue de construire une relation multilatérale. C'est l'objet, justement, du monde multipolaire. Ça fait partie aussi de cette sorte de supériorité intellectuelle européenne et française, qui est de dire, eh bien, puisqu'on n'a pas fait l'ENA, puisqu'on n'a pas fait les grandes écoles, puisqu'on a une culture extrêmement ancienne, extrêmement vieille, eh bien, on se sent supérieur, on se sent arrogant et on ne va pas vers les populations. On ne s'intéresse pas à leur culture, on ne s'intéresse pas à leur identité, on ne s'intéresse pas à leurs coutumes. Et je crois qu'il faut complètement repenser tout ça et travailler, encore une fois, ce qui nous rassemble, aller vers eux. Il y a des choses magnifiques à faire. Vous avez ces avancées diplomatiques considérables. Pourquoi la France ne le fait pas? J'aurais aimé que les présidents, le président français, les présidents qui ont précédé Emmanuel Macron et tous les ministres passent autant de temps en Afrique qu'ont passé votre président, M. Poutine, et M. Lavrov en particulier.
Justement, j'avais une question, c'est parce que la croyance et la foi, c'est une question, on va dire, personnel d'abord, et depuis la disparition de l'Union soviétique et la renaissance de la Russie, l'Église orthodoxe chrétienne est revenue sur le devant de la scène, a pris c'est formidable de voir des millions de croyants se réveiller aujourd'hui. Quelle serait la place de l'Église, des différentes confessions pour une construction du monde de demain, pour vous?
Est-ce que nous sommes immortels? Est-ce que chacun, dans les difficultés, face aux maladies, face au décès de ses proches, est-ce qu'on peut se passer de Dieu? On tend à vous faire croire, dans la civilisation moderne, que vous suffisez à vous-même, que Dieu n'est pas nécessaire. Finalement, on a la technologie, on a l'instant présent. C'est le bien-être et c'est le bonheur. C'est une perversion. C'est une perversion et c'est un grand danger pour la stabilité des populations. La croyance en Dieu, c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait l'inspiration, c'est ce qui justifie notre devenir. Je crois qu'il faut en être conscient. Les religions ont un grand rôle à jouer, mais je ne veux pas que ce soit un rôle, parce qu'un rôle, ça veut dire qu'il y a une sorte de mission plus ou moins politique. Derrière tout ça, évidemment, elles ont un rôle politique. Mais je dirais la croyance, c'est ce qui vient du cœur, c'est quelque chose de fondamental qui nous pousse tous les jours. Je ne veux pas tomber dans la théologie, mais imaginons que tout ça soit un hasard, je vais aller dans leur sens. Ça serait un hasard tellement parfait, tellement magnifiquement organisé, tellement incroyable, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, dans le ressenti, dans ces dimensions qu'on a réussi à maintenant démontrer en physique, notamment avec la physique quantique. On en est à quoi? 24 dimensions prouvées, de mondes parallèles possibles, une particule qui a à la fois la capacité d'intrication et de superposition, donc qui existe simultanément dans plusieurs endroits à la fois. Alors on va pousser le raisonnement intellectuel, mais on tombe sur la limite humaine. Qu'est-ce qui nous réunit ? C'est Dieu. Et je pense que on dépasse toute notion de politique, on dépasse toute notion personnelle, on dépasse toute notion d'ego et de consommation. Il y a des choses magnifiques dans toutes les religions. Dans la religion musulmane, comme dans la religion juive, comme dans les philosophies indiennes et bouddhistes, mais on revient toujours à l'homme. Je crois que un des travers de l'Occident et les politiciens d'aujourd'hui, en Occident en tout cas, du monde occidental, de ce que j'appelle la technocratie, c'est justement la non-croyance en Dieu. Je crois que c'est fondamental quand vous devez diriger un pays. Mon grand-père écrivait « Lorsque je regarde les étoiles, je pénètre de l'insignifiance des choses ». Qui encore se pose cette question aujourd'hui parmi les politiciens en Europe? Je crois que votre président est croyant, profondément croyant, comme l'est Donald Trump, comme le sont d'autres grands chefs d'État. C'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous empêche de tomber dans les travers de l'individualisme, de l'ego, du court terme. Et je crois qu'il faut restaurer dans chaque école l'instruction religieuse, la notion de spiritualité, pour forger les élites de demain, à prendre conscience de qui ils sont, à prendre conscience de leur rôle dans cette vie d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une maturité considérable qu'il faut redonner à nos élites politiques.
Ça nous concerne, nous, personnellement, en tant que médias, depuis le conflit l'Ukraine, les médias russes ont été bannis, interdits de territoire français. Donc, voilà, bon, trouvez-vous ça juste? Et qu'est-ce que vous nous souhaitez à nous, Sputnik?
Je pense que c'est une chose grave que de priver les populations de l'information. Surtout dans des situations aussi dramatiques que la guerre, notamment la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Il y a d'autres malheurs, d'autres tragédies, d'autres conflits dans le monde. Et priver, je dirais, la population d'informations, je pense que c'est un crime intellectuel. C'est un crime tout court. J'ai, grâce à certains médias alternatifs, pu conserver une source d'information précise. Je ne dis pas qu'elle n'est pas forcément orientée en fonction des intérêts des pays, bien évidemment, mais au moins une source d'information factuelle. Je dois reconnaître que la presse anglo-saxonne est quand même plus objective et donne plus d'informations que la presse européenne. Je souhaite que votre chaîne russe, comme d'autres chaînes qui font un véritable travail d'information, on peut parler librement, Maxime, avec vous comme avec les médias russes. J'ai été interviewé à Volgograd par des chaînes de télévision russes et on a vu des médias françaises arriver, interrompre aux journalistes, poser des questions qui sont toujours des questions pièges, qui sont toujours des questions négatives. Et lorsqu'on essaie d'ouvrir un vrai dialogue, d'expliquer, de convaincre, de donner des arguments, automatiquement elles se ferment. C'est un devoir moral, une responsabilité forte de pouvoir donner l'information. Et je souhaite que Sputnik, comme d'autres médias russes et internationaux, puissent avoir véritablement ouvert la possibilité de communiquer, d'interviewer, de s'exprimer, de donner de l'information. Mais tout ça est fait aussi pour retirer l'esprit d'analyse et l'esprit de raisonnement, notamment aux populations occidentales. On prive les Français, on prive l'Occident de bon sens. Déjà de l'information, mais de la capacité d'analyse et de raisonnement. Et c'est encore une fois une perversité intellectuelle, et il faut absolument rétablir, pour Sputnik comme pour d'autres médias, cette ouverture et vous avez un devoir d'information, je pense qu'il faut le respecter, il faut le redonner. On a dit finalement le fait de retirer des licences aux journalistes russes, c'est parce qu'on avait persécuté les médias français, mais c'est l'inverse qui s'est produit. C'est absolument l'inverse qui s'est produit, et pas uniquement en France. Je salue votre travail, Maxime, et encore une fois, je peux parler librement avec vous. J'ai toujours eu ce sentiment, cette satisfaction en m'adressant aux médias russes.
Je demande à la rédaction de faire un insert, parce qu'on a oublié de parler de la Fondation pour la paix. Et donc je vais poser cette question, mais je souhaite qu'on termine par ce qu'on vient de dire juste tout à l'heure, et que la Fondation soit la question donc précédente, la fin, s'il vous plaît. Merci, ça c'est pour la rédaction. Pierre de Gaulle, vous avez créé récemment une fondation pour la paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but, comment est financée, que fait la fondation, quel est son réel but, pourquoi une fondation?
La fondation, c'est un, comment dire, c'est un outil de communication, bien entendu, mais ça résulte d'une démarche globale de reconstruction pour rebâtir la confiance, je vous le disais, pour rebâtir ce lien vis-à-vis, bien entendu, de la France, mais du monde occidental, de pouvoir avoir un langage franc, direct, sincère, de réexpliquer véritablement les choses et faire en sorte que une construction se rétablisse par la vérité, par la nécessité de réexpliquer les choses et par la nécessité de mettre en avant où sont les enjeux politiques, de l'expliquer au peuple, d'expliquer aux Français et de faire en sorte qu'il y ait cette capacité, cette maturité à décider, à comprendre, à aller en avant pour la paix. Je vous disais que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. L'humanité, la population est malheureusement coupée de sa capacité à raisonner, de sa capacité à comprendre, donc de sa capacité à décider, à voter. Je pense que la démocratie n'est plus véritablement présente parce que le lien avec les élites politiques est justement coupé. Et l'objet de ma fondation, c'est de dire qu'il y a des choses qui doivent être mises en place pour rassembler les peuples, pour rétablir l'union des cultures, parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la culture russe, on ne connaît pas la culture chinoise, la perception est aussi négative vis-à-vis du monde arabe, la perception peut être négative aussi vis-à-vis des religions. C'est donc de travailler à tout ce qui nous rassemble, parce que c'est quelque chose qui a des répercussions profondes. Je pense que les Français, mais aussi l'Occident, n'est pas conscient de ce qui est utilisé, de cette pensée unique qui nous veut nous faire réfléchir différemment et qui nous manipule. C'est source de conflits, c'est source de tensions sociales et c'est un des objets de ma fondation, de reconstruire ce dialogue et de rétablir le bon sens. Mon grand-père parlait beaucoup de la politique du bon sens. Et encore une fois, il y a des forces maintenant politiques qui s'expriment, qui ont compris, qui ont changé pour que le bon sens soit mis en place. Maintenant, la paix en Ukraine est possible, la paix au Moyen-Orient est possible. Je souhaite que dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique, la paix se mette en place. Ça passe par le dialogue, par l'union des cultures et par cette volonté, cette sincérité politique de franchise et de vérité. Ma fondation s'attache justement à rétablir les choses et à faire en sorte que tout ce qui nous réunit à travers l'union des cultures, à travers le commerce, à travers les échanges, aussi à travers la philosophie, tout ça, ça doit être mis en avant dans une nouvelle perspective de construction, de positivité, mais aussi de réflexion. Et je crois que l'objet de ma fondation, c'est aussi de mettre les politiciens d'aujourd'hui face à leurs responsabilités intellectuelles et morales. Je crois que c'est essentiel.
Merci beaucoup. Merci pour ces mots, Pierre. Une dernière question. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous allez voir, ça va beaucoup changer l'année qui vient. Donc, quel est pour le mot de la fin, quelle est votre vision de ce futur proche?
Je suis très positif et très heureux parce que le monde évolue dans le bon sens et surtout qu'il y a une prise de maturité vis-à-vis des grands dirigeants, Je ne parle pas du président Poutine qui a toujours eu cette profondeur d'analyse. Vous êtes des stratèges. Les Russes jouent aux échecs depuis l'âge de 3 ans. Et vous avez une vraie vision à long terme et une vraie vision constructive, une vraie stratégie pour votre pays.
Merci en tous les cas pour cette interview, cet entretien. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on va se revoir, qu'on va se reparler justement dans ce futur très très proche et qu'on va revenir sur toutes ces analyses. Donc je vous dis à bientôt, je ne vous dis pas au revoir tout court. Donc à bientôt, merci à nos auditeurs de Radio Sputnik Afrique, identité africaine, qu'enfin cette fois-ci. Merci beaucoup Pierre, merci Monsieur Pierre de Gaulle, à bientôt.
Merci Maxime. Je vous dis à bientôt, c'est certain, dans les mois prochains. Dasvidaniya.
Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission sur Radio Sputnik Afrique. À bientôt sur Radio Sputnik Afrique, identité africaine. Identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaye Binam.
Baba Zangante.